Après, il y a la domiciliation. Alors, la domiciliation, c'est le droit à avoir une adresse pour recevoir son courrier. C'est-à-dire que si tu vas à New York, dans le plus bel hôtel de New York, hein, imaginons, tu auras le droit de recevoir ton courrier à l'hôtel. Eh bien, si tu es étranger, immigré ou...
Hébergé ou logé dans un hôtel, il n'en est pas question.
Si tu es dans un bidonville, eh bien, tu n'as pas le droit à la domiciliation. C'est une obligation des municipalités que de fournir ce service de domiciliation via leur CCS, hein, le Centre d'Action Sociale.
Alors, depuis les lois Besson, donc de 1990 et de 2000, toutes les villes de plus de 5000 habitants ont une obligation d'accueil. Ça, c'est la théorie. En pratique, il y a beaucoup de dérogations et le droit a évolué. Donc, on n'est plus à l'échelle de la commune, on est à l'échelle de l'intercommunalité. Et en fait, l'intercommunalité a permis que les villes de plus de 5000 habitants ne soient plus obligées de construire des aires d'accueil, mais parfois puissent simplement se contenter d'en financer d'autres dans l'intercommunalité. Et ça a permis à beaucoup de communes de plus de 5000 habitants d'éviter à construire des aires d'accueil. 32 ans après la première loi Besson, sur les 95 départements métropolitains, il n'y en a que 25 qui aujourd'hui remplissent effectivement leurs obligations. À l'échelle des plus de 36 000 communes en France, les villes de plus de 5000 habitants représentent à peine 5% des communes françaises. Même si toutes les communes de plus de 5000 habitants construisaient effectivement une aire d'accueil, il y aurait quand même 95% des communes en France qui ne proposeraient aucun terrain. Et donc qui seraient autant de zones d'exclusion pour l'habitat et l'accueil des gens du voyage. Ce qui est encore plus pernicieux, c'est que dès lors qu'on est aux normes, donc qu'on accueille, quand on est une ville de plus de 5000 habitants, on peut prononcer des interdictions de territoire sur tout le territoire en dehors des aires d'accueil. Ce qui fait qu'à l'échelle d'un territoire, 99% du territoire devient de facto inhabitable pour le voyageur.
Comment ça se passe une expulsion, pour bien comprendre?
Oui, en fait, néovae, un papier, ça veut dire avec une date pour sortir de la maison. Mm-hmm. Mais nous, comme il n'y en a pas, où aller, nous rester de la maison.
Comme oui, ça, c'est une date à partir de laquelle vous pouvez être expulsé, mais c'est pas, on ne sait jamais la date de l'expulsion précise.
Mais jusqu'à tes données, dernier jour, ça veut dire 5 juin, c'est le dernier jour.
Ouais, ouais.
Mais après, il n'est pas sorti de la maison.
Après, on vit dans l'incertitude. Quoi.
Après, vous attendez une expulsion de police comme ça.
Ouais.
Mais ça veut dire que ce n'est pas une police, ça veut dire ça comme un criminel.
Oui, oui.
Il y avait même une fois, après, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, mais où vous avez été expulsé en pleine nuit par un vigile.
Oui, c'est ça, oui. C'est ennuyé à Saint-Zulung, pareil, oui. Avec mon 10 enfants. Ça veut dire avec mon garçon. J'ai dormi là-bas, une ouvrière et une maison. Toute la journée, personne n'est pas passé.
Il y a un là. Première fois, quand j'ai ouvert les maisons, nous restons là-bas. Elle est passée, le propriétaire, elle a dit, c'est pas grave, vous restez ici.
Okay.
Et nous restons ici. Après, mon mari, elle est resté avec mon fils dedans. Elle arrive ce soir.
Minuit.
11,
à minuit.
12,
minuit.
Ce soir.
00.
00. Elle est venue, je ne sais pas, explique quand même.
Ça veut dire, moi, j'ai mangé un peu. Lumière, il n'y en a pas. C'est pas au garde rien. Il nous s'est fait pour dormir, hein. Nous manger, c'est fait. Ma fille écoutait quelque chose, mais elle dit, papa, je ne veux pas dormir parce que j'ai écouté quelque chose. Moi, elle dit, t'inquiète, je suis ici, dormi. Après 5 minutes, quand elle a fait comme une bombe tout dedans, comme ça.
Dans la
elle est cassée, elle est cassée les portes.
Elle est cassée les garages, premier les garages. Elle est cassée et après entrer derrière de la porte. Il m'a sorti, je lui ai dit c'est qui. Il a dit police, mais c'est pas police. Si c'est vigile ou sécurité, s'il y a quelque chose, il va se marquer quelque chose. Mais on a parlé.
Avec les chiens.
Avec les chiens. Et moi, il a dit ferme ton chien, j'en ai un.
Parce qu'il est stressé, mon fils.
C'est stressé, il ne connaît pas où aller. Papa, c'est quoi ça? Mais moi, je sais pas, ça c'est pas bon. Pour une famille comme ça.
Et ils ont cassé la porte d'ailleurs pour rentrer chez toi.
Ils ont cassé la première le garage quoi. Le garage d'or. Après ils sont entrés derrière.
Ils se font passer pour la police alors que
non,
c'est parce pas que la police.
Non, c'est pas police.
Non, parce qu'elle a dit je suis police.
C'est pas police. Une sécurité, par exemple, elle va se présenter, tac, s'il vous plaît, sortir, pour entrer comme ça.
Ouais.
Nous pas vendre de drogue, hein.
Ouais.
Quelque chose, nous n'est pas criminel, nous jusqu'à entrer dedans pour solution pour mon famille.
Ouais.
C'est une expulsion illégale,
mais qui est super traumatisante.
Voilà, mais oui.
Si c'est porté plein et nous, il n'y en a pas droit, parce que nous, il n'y en a pas papier ici.
Très compliqué.
Si je veux le faire, ça, après, préfecture, elle va garder.
Plus, oui,
elle,
tu prends des risques.
Elle a cassé les maisons pour entrer, et plus, maintenant, elle a fait honte. Et comme ça, ok, TF.
Oui, bien sûr.
Mais ils jouent sur ça, justement.
Ça, c'est pas bon.
Ils profitent de ça, justement, pour vous expulser illégalement.
Ouais.
Quoi.
Ouais, puis il y a les lois, les nouvelles lois aussi, anti-squat.
Alors, oui, il y a eu les lois anti-squat avec notre le député Kasbarian, qui maintenant est ministre du logement.
Du logement, bien joué. Mais il connaît le dossier, lui, t'as vu.
Ouais. Non, il criminalise encore plus, en fait, les habitants
les bergers,
de squat. Les
bergers, hors bergers aussi.
Oui, tout à fait, oui. Et ça durcit encore plus les possibilités pour les personnes de se réfugier dans des lieux qui sont abandonnés depuis des années. C'est pas souvent dans les médias on en parle de la petite maison du papy,
ouais,
le pauvre petit propriétaire, alors qu'en fait dans les faits, enfin c'est des études qui montrent ça, c'est pas du tout le cas. C'est souvent par exemple des fois des bureaux, des entreprises qui sont vides depuis des années ou des maisons qui sont abandonnées. Et les personnes en fait s'y réfugient parce que l'État ne remplit pas la loi en fait où il est censé héberger toutes les personnes dans l'urgence en fait. Et normalement la loi montre que c'est inconditionnel que toutes les personnes même sans papier devraient être hébergées et c'est pas le cas. Donc ces personnes-là trouvent d'autres solutions. C'est pas une partie de plaisir pour elles de vivre forcément dans ces squats, mais en fait c'est une technique de survie comme une autre et voilà, elles sont criminalisées encore plus avec la loi Kasbarian.
Ouais, parce que le danger, c'est qu'effectivement, il y a un arsenal de lois
tout à fait,
qui
ouais.
permettent une répression légale, en fait.
Ouais. Et tu voulais peut-être faire un point sur, justement, en parlant des lois, la loi immigration.
Ouais, on peut carrément parler de la loi immigration qui a été largement débattue ces derniers mois. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, quand les projets qui sont néolibéraux et racistes prennent le dessus sur les devoirs d'humanité, on a bien évidemment la création donc, de la loi Asile et Immigration de Darmanin qui s'attaque à des acquis sociaux vitaux et l'État français, plutôt que de respecter son mantra d'égalité, enfonce les catégories d'indésirables dans une caste précarisée maintenue par le refus de l'accès aux droits. Donc il est bien facile d'enfoncer les gens dans la misère en leur refusant leurs droits, d'user des marqueurs de cette misère comme un projet de but. Donc il faut abattre les pauvres, il faut abattre ceux qui travaillent pas assez, il faut abattre ceux qui n'ont pas les bons papiers et qui donc ne peuvent pas accéder à une situation de citoyen classique. Beaucoup de ces propositions ont été censurées au Sénat car elles ont été vues comme anticonstitutionnelles, telles la suppression de l'AME pour les personnes malades, dans les buts d'éviter un imaginaire tourisme de soins, ce qui est complètement grotesque, puisque l'AME n'offre l'accès qu'à un panier réduit de soins, que la moitié des migrants n'en font même pas la demande, et finalement qu'elle ne représente même pas 0,5% des dépenses totales de santé. Donc parmi les lois qui ont réussi à entrer en vigueur, on peut citer l'attribution des cartes de séjour uniquement dans les catégories de métiers dits en tension. Donc on en parlait tout à l'heure, c'est quand même... Il y a une histoire derrière ça, ça fait longtemps qu'on envoie certaines catégories dans des métiers qui sont particulièrement difficiles et dans lesquels on n'a pas assez de main-d'œuvre. Et donc, pour avoir ces cartes de séjour, il faudra donc faire un métier en tension, justifier son intégration, avoir travaillé au moins 12 mois et résider depuis 3 ans en France, donc des conditions de résidence en France avec une situation administrative illégale ou avec un emploi exercé illégalement si on n'a pas le droit de travailler avant de faire la demande. On a aussi des conditions du regroupement familial qui sont durcies, avec un allongement des délais, encore une fois, prouver ses ressources, etc., avec toutes les conditions précédemment évoquées. Il y a aussi la restriction du droit du sol, dont on voulait beaucoup parler aujourd'hui, parce que c'est quand même, c'est vraiment très important pour beaucoup d'enfants qu'on rencontre. Donc le droit du sol, il est en vigueur depuis le 19e siècle. Jusqu'à présent, la nationalité d'un enfant né en France était obtenue automatiquement à 18 ans, si la demande n'était pas faite avant, à condition d'avoir vécu 5 ans sur le territoire. La dernière fois que ce droit du sol a été suspendu, c'était sous Vichy, et c'est ce qui, de base, était proposé par Darmanin. Heureusement, ça a été révisé. Ceci dit, ce projet de suppression du droit du sol est toujours appuyé par Darmanin sur le territoire mahorais, alors qu'il avait déjà été durci en 2018. Donc on fait
on exerce sur les Outre-mer ce qu'on veut ensuite amener à la métropole. Et donc les enfants roms que nous on rencontre, ils sont pour la plupart nés en France, ils ont suivi toute leur scolarité ici. Pourtant, nés de parents immigrés, ils devront attendre finalement jusqu'à leurs 16 ans et auront jusqu'à leurs 18 ans pour engager les démarches de demande de nationalité française. Donc c'est un temps très court déjà quand on connaît les délais de l'administration française, une charge administrative lourde à faire peser sur des mineurs qui vivent dans une forte précarité. Et c'est une manière de ficher, de stigmatiser les personnes dans l'unique but de leur faire comprendre qu'elles ne sont pas des citoyens comme les autres, en contrôlant toujours leur intégration, encore de l'argent public dépensé pour la surveillance accrue de certaines populations. Il a pourtant été statistiquement prouvé que l'introduction de ce type de loi qui vise à contrôler et mesurer l'intégration des enfants immigrés a pour effet d'engendrer une diminution du sentiment d'appartenance française des jeunes par rapport aux générations précédentes. Comment on peut s'attendre à un autre effet après avoir promulgué et mis au centre des débats, année après année, des lois visant à stigmatiser toujours plus les personnes, à toujours leur rappeler que l'origine des parents prévaut sur l'identité française, sur la construction sociale qu'on a en grandissant en France? Comment une société qui abandonne ses jeunes, leur refuse leurs droits, les exclut socialement, spatialement et économiquement, et qui ne s'est déployée envers eux que des dispositifs de contrôle et de répression, peut-elle prétendre vouloir favoriser leur intégration? Donc ça, c'est une grosse difficulté, et il y a aussi un autre point qui me tient à cœur de parler, c'est la facilitation des éloignements. Donc comme on le disait, les Albanais, les Roumains, c'est parmi les populations qui reçoivent le plus de demandes de mesures de retour forcé. Donc il y a les retours forcés, les OQTF. Les OQTF, elles coûtent 500 millions d'euros par an à la France. Et pourtant, en 2023, seulement, même pas 7% des OQTF étaient exécutés. Ce faible taux, il s'explique par des difficultés techniques de mise en œuvre et révèle des frais démentiels liés à la rétention et à la justice administrative. Donc les dépenses en contentieux d'OQTF, qui sont souvent annulées, sont estimées à 77 millions d'euros en 2023. Le coût d'une place en centre de rétention où on enferme et maltraite des personnes dont le seul crime, c'est de ne pas avoir des papiers valides, revient en moyenne à 920 euros par jour. Ça fait cher le loyer. Si on accumule les dépenses totales liées au centre de rétention, on arrive donc à 410 millions d'euros par an. Et globalement, la lutte contre l'immigration irrégulière coûte 2 milliards d'euros par an. Alors après, on va nous sortir l'argument budget, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est bien connu ça. Mais il y a un budget illimité pour juste étaler le racisme de l'État français, et pour cause. Si le coût social de ces politiques d'immigration est supporté par l'ensemble de la société, ce sont un certain nombre d'acteurs privés qui, eux, en tirent les bénéfices. Ouais. On peut citer, pour exemple, les compagnies aériennes qui sont gavées pour les expulsions forcées, ou encore la main-d'œuvre pas chère, donc par exemple embaucher des travailleurs sans papier pour les Jeux Olympiques, finalement avec des situations toujours plus précarisantes pour les personnes. C'est vraiment juste prendre les bénéfices de l'immigration et après jeter les gens avec leurs problèmes, sans jamais leur offrir un seul soutien. Voilà, je pense que quelqu'un veut rajouter quelque chose.
Il y a aussi tous les intervenants extérieurs, en fait. Sodexo, c'est un vrai business. Il y a même, je crois, le privé qui commence à créer des centres, enfin qui rachète des terrains, ils commencent à faire de la gestion de lieux où les gens vont être expulsés.
Ouais.
Donc oui, le privé a bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire
tout
aussi.
À fait, ouais. C'est un business très futuriste.
C'est un business.
Ouais.